Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, grâce à votre carte Waouh Auchan, cagnottez 60% sur le deuxième paquet de linguine Auchan Tavola in Italia.
Eh, avec une offre pareille, ça sent déjà bon les pâtes à l'italienne.
Auchan, avec plaisir. 1,39€ cagnotte déduite, les deux paquets de 500 grammes de linguine Auchan Tavola in Italia. Prix payé en caisse, 1,98€, soit 1,98€ le kilo. Existant d'autres variétés, valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Pour votre santé, bougez plus.
RMC, les grandes gueules.
Les agriculteurs qui sont arrivés en tracteur aujourd'hui dans Paris, alors pour ceux qui sont devant RMC Story, ils sont passés devant notre bâtiment. Et ce qui a valu à l'ami Didier Giraud d'aller les saluer, il est même monté sur un des tracteurs, Didier. Il est allé les voir. Ils sont vraiment passés à 10 mètres de notre bâtiment et on est allé voir un peu quel était leur état d'esprit, comment ils se sentaient, parce que c'est un vrai combat pour eux, ce qui se passe en ce moment avec l'affaire des néonicotinoïdes.
Alors, les néonicotinoïdes, ce sont des insecticides toxiques pour les abeilles et interdits depuis 2018. Mais il y avait une dérogation depuis 2 ans. La France bénéficiait d'une dérogation, ce qui permettait donc de les appliquer préventivement sur les semences de betteraves pour les prémunir de la jaunisse, notamment une maladie virale propagée par des pucerons. Le problème, c'est qu'il y a une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui estime illégale cette dérogation et la France s'est pliée face à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Et c'est ça qui déclenche la mobilisation, la décision du gouvernement, c'était le 23 janvier dernier, de renoncer donc à autoriser ces néonicotinoïdes. On a donc des centaines de tracteurs qui ont convergé vers Paris au petit matin. C'est la première fois d'ailleurs depuis 3 ans que les agriculteurs viennent manifester ainsi à Paris. On est à quelques jours d'ailleurs de l'ouverture du salon de l'agriculture. Alors à qui vous donnez raison? Est-ce que vous donnez raison aux agriculteurs qui disent que sans l'utilisation de cet insecticide, eh bien, certains vont devoir fermer la porte, ou plutôt les écologistes qui disent, bah oui, bah à un moment donné, ce qui est mauvais pour la nature, il faut l'interdire, et notamment ce qui est mauvais pour les abeilles.
Didier, explication,
revenir,
s'il te plaît.
Je l'ai déjà fait à ce micro, mais revenir sur les néonicotinoïdes, aujourd'hui, comment ça se passe? En fait, c'est un insecticide qui enrobe la graine de betterave, que t'enfouis dans le sol et qui la protège au stade plantule, hein, quand la plante est toute petite, contre les piqûres de pucerons qui transmettent une maladie et qui font jaunir les betteraves. Voilà, ça c'est le principe simple. Alors moi, on m'a toujours pas expliqué, j'ai toujours pas compris comment ça pouvait affecter les abeilles qui, elles, viennent butiner le pollen d'une plante qui est récoltée avant d'être en fleur. Voilà, la betterave, elle est récoltée avant d'être en fleur, quoi. Donc ça, j'ai toujours pas compris comment c'était nuisible pour les abeilles. Mais je pense que dans cette manifestation, il y a quelque chose de plus large qui s'exprime. C'est que, alors sous couvert de l'Europe, mais sous couvert de bien-être animal, sous couvert de vertu pour la planète, de temps en temps, on enlève un produit comme ça. Et il se trouve que, il y a des exemples sur un désherbant des endives. Il y a des alors certainement que ces produits sont nocifs, sauf qu'à un moment donné tu remets en cause toute une filière, quoi. J'ai un exemple très concret. Il y a eu chez nous une pénurie qui sera peut-être jamais recomblée, peut-être que même le labo ne fabriquera plus un vaccin qui nous permet de vacciner les vaches, qui protège le petit veau contre des diarrhées néonatales, quoi. Et aujourd'hui on n'a pas d'alternative, quoi. Et ce que dénoncent les betteraviers avec leur tracteur là, c'est que si t'enlèves un produit, tu peux faire tomber toute une filière. Et projetons-nous un peu plus que ça. Quand tu fais tomber, c'est quoi les betteraves? La betterave française, elle sert à faire du sucre, quoi. Quand tu fais tomber la filière betterave sucrière en France et en Europe, puisque c'est une décision européenne, c'est quoi l'alternative? Eh ben, c'est simple. L'alternative, c'est du sucre de canne qui est planté sur la base de la déforestation plutôt en Asie du Sud-Est, c'est-à-dire en Indonésie, et qui est produit à base de pesticides avec de la main-d'œuvre quasiment esclave, quoi.
Avec ce genre de décision, on se tire une balle dans le pied.
Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on vienne interdire des productions, alors qui certes ont peut-être un produit qui pose problème, mais vertueuses, sans alternative, et qu'on le remplace par un produit qui, à l'échelle de la planète, est beaucoup plus nocif.
Quand on parle de betterave, c'est pas forcément la betterave.
Non, c'est la betterave sucrière, là. Voilà. On est sur la production de sucre.
Ça sert à quoi, ça, la betterave sucrière? On en trouve où?
Bah, dans tout le sucre, tout le sucre, alors pas que le sucre blanc, tout le sucre qu'il y a dans la consommation.
Donc,
oui, tu l'as dit, ketchup, dans un petit pot de ketchup d'un kilo, c'est 22 morceaux.
Il n'y a pas d'alternative?
Non. Bah, si, mais ailleurs.
Bah, et le sucre de canne, il vient au néonicotinoïde.
Ah, bah non. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas.
Thomas.
Moi, je pense qu'il faudrait remettre à plat toute la filière agricole. Parce que, il y a un vrai problème. Au-delà de ça, et là, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que, il y a des gens qui font des principes sur des interdictions de certaines substances, qui ont
des conséquences.
Un combat politique, sans voir les conséquences que ça peut avoir sur nos filières, sachant qu'on vit dans un espace mondialisé où on peut importer après des produits.
Un truc qui est pire.
Et voilà. Tout à fait. Tout à fait. Donc, il faudrait revoir quand même toute la filière agricole. Moi, je pense que, la mondialisation qui a profité au départ aux agriculteurs, parce qu'elle leur offrait des débouchés supplémentaires et qui les a amenés à faire des investissements, mais majeurs, très élevés pour augmenter leur productivité, aujourd'hui se retournent contre nous. Parce qu'il y a les pays émergents. Quand vous parlez, par exemple, aux producteurs de lait de Bretagne, ils vous disent, voilà, au début, on a fait des investissements pour produire du lait, etc. On a joué le jeu, c'est des investissements de long terme. Et puis, les prix du lait ont chuté quand la Chine est arrivée sur le marché. Mmh. Et là, qu'est-ce qui se passe pour nous? C'est la faillite.
Ouais.
Donc, il faut un peu revoir toute la filière et faire en sorte que la filière agricole française, elle permette la souveraineté alimentaire.
Mais quand on est plus vertueux que les autres, ça, on est un effet boomerang parce que
c'est ça. L'organisation, c'est ça.
Alors peut-être qu'on veut donner l'exemple.
Quand il y a une harmonisation européenne, c'est déjà pas mal.
Oui.
J'ai connu il y a quelques années un désherbant contre les carottes de consommation, qui a fait tomber la filière carotte, mais complètement. Alors qu'en Espagne, ce désherbant était toujours autorisé.
Voilà.
Ça, c'est un vrai problème. Quand au moins il y a une harmonisation européenne, tu peux gérer un marché intérieur.
C'est pareil pour tout. Le textile en France a été tué aussi par un certain nombre de normes comme ça, alors qu'après on importait des produits du Bangladesh ou de la Turquie. Donc voilà.
Joël, et puis on va écouter Irvine, agriculteur en Vendée dans un instant. Il est viticulteur précisément.
Non mais moi je partage un peu l'avis de Thomas, c'est-à-dire que je suis pas pour qu'on maintienne une filière alors que ça détruit l'environnement. Mais par contre, ce que je reproche, c'est que j'ai l'impression qu'on prépare jamais, en fait. On a des combats qui sont environnementaux, mais on ne les anticipe jamais. On n'anticipe jamais ce que va devenir une filière, on n'anticipe jamais...
Les conséquences des décisions.
Voilà, les discussions, elles ont été longues quand même.
D'accord. On discute, mais il n'y a pas d'alternative. Oui. Tu vois, parce que... Qu'est-ce que tu vas dire à des agriculteurs? C'est quand même des gens qui vivent de leur travail et qui nourrissent leur famille grâce à ça. Donc, qu'est-ce que tu vas leur dire? Arrête cet insecticide et c'est terminé. Non, je crois vraiment que... Je pense que dans le temps, il va quand même falloir apprendre à chercher une solution avant d'appliquer une sanction. Si, parce que c'est un peu vu comme ça. C'est un peu vu comme une sanction.
Ouais. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas sanctionner sans plan B, quoi.
Ouais, Irvine, bonjour.
Oui, bonjour.
Viticulteur, Irvine en Vendée. Est-ce que vous...
J'habite en Vendée, mais je suis viticulteur dans la Loire-Atlantique.
Parce que je me disais le vin vendéen.
D'accord.
Il y a des plans nantais.
Non, il y en a. Est-ce que vous êtes aux côtés de vos collègues agriculteurs là ou pas là, qui manifestent?
Bah oui, je suis à leur côté. Et puis, comme disait Joël, c'est une honte de vouloir interdire un produit sans avoir aidé la filière à faire une transition.
Mais c'est bien de l'interdiction des néonicotinoïdes?
Bah, si c'est un produit qui est toxique, enfin, à bout d'un moment, il faut l'interdire. Moi, je suis le boss dans le bio. Dans un domaine, ça nous a pris presque 10 ans pour convertir tout le domaine, pour adapter l'outillage, les traitements et tout le reste. Ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, je comprends ces agriculteurs qui se retrouvent le bec dans l'eau parce qu'il y a des petits bureaucrates qui savent pas comment ça se passe sur le terrain.
Alors, c'est pas les bureaucrates, c'est des lobbyings aussi, hein.
C'est des lobbyings.
Et c'est des gros lobbyings cachés dans les petits bureaux Bruxelles,
ils savent pas comment ça se passe sur le terrain. Excusez-moi, ces écolos-là, quand est-ce qu'ils ont été sur le terrain avec les mains dans la terre? Jamais. Jamais. Ils savent pas ce que c'est de conduire un tracteur, de passer des journées dans le froid, sous un soleil de plomb. Jamais. C'est les bureaux climatisés. Et après, ils s'étonnent que, les agriculteurs soient pas contents, soient les pollueurs.
Mais je comprends, Irvine, vous êtes viticulteur, vous passez de tous les pesticides, maintenant vous n'en utilisez plus?
Bah non, moi je suis en bio, moi j'utilise aucun pesticide. Et aucun herbicide. Et ça prend énormément de temps pour adapter le matériel pour.
D'autant plus que chez vous, vous êtes quand même sur un climat océanique. Et le problème de la viticulture, c'est quand même l'humidité. Si on ne doit pas traiter, c'est quand même l'humidité. Donc, trouver des alternatives sur la façade atlantique à la viticulture bio, c'est quand même compliqué.
Carrément. Après, il y a des produits dans le bio qui existent, qui aident, mais c'est beaucoup plus d'heures de travail que dans le conventionnel.
Ok, merci d'avoir été avec nous, Irvine. Bonne journée.
Bonne journée à vous aussi.
À bientôt, monsieur le viticulteur. Raphaël Rémy Leleu est avec nous. Elle est élue Europe Écologie Les Verts. Bonjour, madame Rémy Leleu.
Bonjour.
Que pensez-vous de cette manifestation des agriculteurs aujourd'hui, alors?
que c'est une manifestation de la part de certains agriculteurs, avec toujours la même ligne de défense, c'est de refuser d'adapter le modèle agricole. Et je trouve quand même assez hallucinant finalement que l'une des grandes réclamations du jour, ça soit de pouvoir continuer à étendre du poison sur certaines cultures.
C'est du poison, les néonicotinoïdes ?
Oui, bien sûr. Et en fait, il y a un vrai consensus scientifique autour de ça. C'est un poison pour les abeilles, pour les insectes. Ça s'infiltre dans le milieu naturel. Et il n'y a pas de surprise. Ça fait plusieurs années que la France s'est engagée à arrêter avec de tels produits. La France a été condamnée par l'Union européenne parce qu'on était en retard. Là, il faut vraiment penser la
Mais on le remplace pas. Madame Demilleleu, j'ai une question
parce que j'ai compris que techniquement, vous avez lu des études qui techniquement disent que ça tue les abeilles. Moi, j'ai pas compris comment l'enrobage d'une graine, lorsqu'on récolte une plante qui n'est pas en fleur, ça peut tuer les abeilles. Mais allez, non, partons de ce principe-là, je vous l'accorde. Expliquez-moi, l'alternative, elle est où ? Non mais l'alternative, elle est où ? Quand on aura fait tomber la filière sucre en France et en Europe, vous préférez qu'on ait du sucre de canne qui vienne d'Indonésie ? C'est mieux ?
Didier est agriculteur, celui qui vous parle, madame Rémy Leleu.
Ok, parfait. Vous savez, je viens du nord de la France, donc non, faire tomber la filière sucre, ça ne m'intéresse pas véritablement.
Mais comment on fait quand on n'a plus ça pour traiter les betteraves ?
Eh bien, vous savez quoi ? J'ai écouté aussi ce qu'a dit Irvine juste avant moi. Il disait que l'adaptation du modèle agricole, des outils, des cultures, ça nécessitait beaucoup d'heures de travail. Eh bien, ça tombe bien. Donc, au contraire de tout le discours de la FNSEA, ça veut dire qu'on peut créer des emplois dans l'agriculture et dans l'agriculture durable.
Mais madame, quand les gens veulent pas aller travailler dans un hôtel, alors trouvez-moi les gens qui iront désherber des betteraves à la main, quoi. Hein. Vous savez ce que c'est que de désherber des betteraves à la main, madame ? Désherber des betteraves à la main, c'est un bagne, quoi. C'est un bagne.
Et donc vous préférez épandre du poison. Et
non, mais enfin, dire on va remplacer les néonicotinoïdes par de la main d'œuvre, madame, c'est quand même être sacrément déconnecté du terrain.
Hein. J'ai dit qu'il y a des moyens d'avoir.
Mais c'est quoi les moyens ?
Qu'est-ce que vous faites ? Il faut qu'on comprenne.
Quels sont les moyens ? Oui, mais précisément.
C'est un discours.
Attends, tais-toi, Didier, parce qu'on ne comprend rien si tu parles en même temps. Quels sont les moyens précisément ?
Mais ne serait-ce que tout le développement de la filière bio, ça existe.
Donc
ça
on désherbe des betteraves à la main. Comment on fait autrement manuel, techniquement fait. Comment on fait pour désherber des betteraves
c'est
si
toute
on
la limite
pas
en fait de vos démarches, c'est-à-dire que en fait vous dites, vous avez peut-être raison, c'est pas bon pour les abeilles, mais j'ai pas de plan B en fait. Ou alors c'est de revenir à l'agriculture effectivement qui ressemblait à un travail de bagnard, c'est-à-dire
plus personne ne veut aller dans les champs déjà aujourd'hui, madame Rémy Leleu. Donc il y a toute une filière qui déjà disparaît.
Ça va pas dans le sens comme du progrès du travail.
Alors, allez-y.
En fait, le modèle qui est en train d'être proposé où on a une agriculture qui est industrielle et qui utilise des produits dangereux. Ça ne peut pas être attractif. Et d'ailleurs, moi, ce qui est quand même assez étonnant, c'est que ça fait plusieurs années qu'on dit qu'il faut sortir de ces produits dangereux. Pourquoi on a...
Parce que vous ne proposez pas de
quand vous aurez fini vos éléments de langage, madame, expliquez-moi comment on fait des betteraves bio, quoi. À part des esclaves qui désherbent à la main les betteraves, je ne sais pas faire, quoi. Et je suis pas betteravier, mais expliquez-moi.
Vous pensez vraiment que les conditions de travail en utilisant des produits dangereux pour toute la main d'œuvre agricole,
je dis pas que c'est la panacée, mais les gens qui ont des arbres fruitiers ou des légumes, ils sont obligés d'aller chercher des roumains pour ramasser les légumes ou les fruitiers. Ils arrivent pas à trouver autre chose comme main d'œuvre. Alors désherber des betteraves à la main, franchement, je vois pas qui va le faire.
Est-ce que d'autres pays européens ont interdit les néonicotinoïdes.
C'est là où est ma question parce que j'ai la sensation que non.
Pardon.
Justement, la France a été punie par la Cour de justice européenne parce qu'on n'avait pas appliqué. Oui.
Donc c'est le triomphe du sucre de canne, c'est-à-dire qu'on ira acheter ailleurs notre sucre. Eh oui, parce qu'on n'est pas dans un monde fermé. C'est-à-dire que ces décisions, c'est formidable si on était dans un monde clos. Mais c'est pas vous préférez, c'est que à un moment donné, pardon, c'est bien d'avoir des positions de principe. Après là, il y a une réalité.
Elle n'est pas uniquement de principe. Si, elle est pour préserver parce que à la fois les filières agricoles durables.
Mais non, vous la préservez pas. Vous la tuez.
Des insectes pollinisateurs et elle est pour préserver la santé. C'est quand même délirant.
Mais non, madame Rémy Leleu. Mais parce que vous n'avez
pas capable. La défense des produits toxiques.
Madame Rémy Leleu. Vous n'êtes pas capable de nous dire ce qu'on va remplacer par quoi. Vous nous dites pas par quoi on va remplacer, sauf le travail humain, c'est-à-dire qu'on va désherber à la main.
J'ai l'impression d'avoir les discours sur l'amiante il y a quelques décennies. Sérieusement en train de dire non, on ne va pas remplacer les produits toxiques, on ne va pas trouver de solution.
Non, c'est vous, qui n'avez pas de solution. Vous n'avez pas de solution. Et vous ne pouvez pas, chez Europe Écologie, en même temps nous parler du droit à la paresse et dire que les agriculteurs ils vont devoir travailler le double d'heure à la main pour remplacer ce qu'ils utilisent.
Ah, j'ai jamais dit que j'allais travailler double d'heure. J'ai dit que pour faire des arguments de la FNSEA, mais non, mais il faut y avoir des filières de création d'emplois dans l'agriculture.
Oui.
Oui, c'est ça.
Mmh. Moi, je serais curieux de voir les candidats. Quand tu cherches un mec pour t'occuper des vaches, t'arrives pas à trouver. Alors pour les
Merci Raphaël Rémy Leleu, élu Europe Écologie Les Verts. La discussion à Paris va continuer dans un instant, justement sur quelle alternative pour les néonicotinoïdes. On a un agriculteur, Denis, qui va nous appeler de l'Aude et qui comprend pas ses collègues qui viennent manifester en tracteur. Alors il va y avoir un dialogue avec toi, mon cher Didier. À tout de suite. Et Joël aussi, à deux trois petites choses.
Ça serait les betteraviers, ça serait bien qu'ils nous appellent aussi.
À tout de suite avec les GG.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
On est en pleine discussion là sur l'agriculture. Quel modèle d'agriculture voulons-nous avec l'interdiction des néonicotinoïdes par l'Union européenne? Ça risque de mettre à mal la filière de la betterave. Alors, non pas de la betterave rouge. Il y a un grand débat d'ailleurs en ce moment dans les grandes gueules. C'est qui aime la betterave rouge?
Pas mauvais. Moi j'aime bien. Ouais.
T'aimes bien?
Ah oui.
Olivier.
Moi c'est des souvenirs, des cauchemars de cantine.
La petite barquette blanche.
Fanat de la betterave non plus. Joël.
Non, moi la cantine ça m'a traumatisé la betterave.
Et Didier, la betterave rouge.
Je la mange sans.
Bon, alors en régie, j'ai fait un sondage en régie, c'est 100% pro betterave rouge.
Il mange. Mais du coup c'est pas de ça qu'on parle. Non, c'est du sucre venu de la betterave. Et c'est Denis qui va en parler avec nous. Bonjour Denis.
Oui, bonjour.
Bonjour Denis. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez être en tracteur avec vos potes agriculteurs là ou pas?
Ah non, pas du tout, non. 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 C'est pas du tout ma tasse de thé. J'ai arrêté tous les produits chimiques et l'agriculture intensive il y a 10 ans. Et il y a des alternatives. J'entendais tout à l'heure que vous disiez qu'il n'y avait pas d'alternative. Bien sûr qu'il y en a, puisque j'en vis et de mon métier. Donc,
vous faites des betteraves?
Bien même. Non, ah bah, mais...
On parlait de ça précisément. Hein.
Oui, mais c'est comme toutes les cultures. Je fais aussi des lentilles, par exemple. Mais celui qui fait des lentilles et qui fait lentille sur lentille tous les ans, il va être obligé de traiter. Parce qu'il y a les bruches qui arrivent, il y a des pucerons, il y a plein de maladies. Mais il faut faire des rotations longues. Faut pas, celui qui fait betterave sur betterave et qui fait que ça, ou que du maïs sur maïs, il va avoir des soucis, c'est sûr. Mais il faut travailler avec des sols vivants.
Si je comprends bien, Denis, vous êtes dans une démarche d'agriculture biologique. J'entends bien ce que vous dites. Après, on est d'accord. On peut être d'accord, Denis, qu'il y a des productions en biologique, c'est compliqué, quoi.
Mais c'est compliqué. Si on garde la même façon de cultiver, c'est impossible, même, en bio.
On est d'accord.
C'est impossible. Il faut modifier sa façon de cultiver.
Non, mais personne, dans l'agriculture, je pense que personne ne refuse l'adaptation. Il y a deux enjeux. Il y a un, d'avoir une alternative à un produit. Si c'est une alternative technique telle que vous nous la décrivez. Puis deux, il y a un enjeu d'autosuffisance alimentaire, quoi. Je pense que dans un monde mondialisé, ce que l'on ne produit pas avec des normes aujourd'hui qui sont plutôt assez élitistes en France et en Europe, c'est produit ailleurs dans le monde avec des normes à la fois sanitaires, à la fois environnementales, à la fois gustatives, à la fois tout d'ailleurs, même sociales, qui sont à des lieux complètement opposés de ce qu'on fait chez nous, quoi.
Oui, mais c'est pas parce qu'ils produisent de la merde à les...
Ah, ça a coupé.
On doit bien produire et on peut bien produire. Moi, je produis.
Oui, mais on nourrit qui avec ça,
Joël?
Non, mais le vrai souci, c'est la consommation. Je veux dire, on peut mieux produire, effectivement, mais est-ce que la consommation de sucre baisse? Parce que si elle ne baisse pas, on va être amené, comme le dit Didier, à importer du sucre.
Mais quelque part. Il faudrait qu'elle baisse d'ailleurs.
Donc justement, c'est pour ça que je dis que faire une politique juste avec une idéologie, ça c'est pas une politique. Il faut voir tous les paramètres. Soit on éduque la population et on se dit on mange un peu moins de sucre parce que nous en fait on va baisser notre production de betteraves sucrières parce qu'on veut plus de nicotinoïdes et du coup on va en importer moins. Là t'as un vrai résultat et je sais que c'est un petit peu pointilleux comme politique. Hein. Je
non mais c'est
pas
une réflexion à avoir. C'est quel type d'agriculture on veut garder en France.
Les gens qui tombent sur le modèle, c'est le sucre. Il sert aussi une industrie agroalimentaire qui fait une bouffe industrielle.
Mais exactement,
quoi.
C'est ça.
C'est ça.
Mais ce qu'elle disait, la députée, elle parlait d'industrialisation.
La maire adjointe, en réalité, conseillère de Paris.
Elle n'est pas députée encore.
Ah, okay. Donc elle, ce qu'elle veut, c'est arrêter une agriculture industrielle. C'est ce qu'elle veut.
Il faudra nourrir les gens quand même.
On est sur quelque chose de la décroissance, de manger moins. C'est pour ça qu'elle cherche pas une solution. C'est qu'elle est sur autre chose.
Après, moi, je veux bien écouter tout ça, mais les lentilles à Denis là, qui sont produites dans l'eau de façon biologique,
la capsule Apollo et les lentilles
avec quelque chose de super bien maîtrisé pour arriver à produire des lentilles. Je suis pas sûr que partout dans le 93 on puisse se les payer, quoi.
Voilà.
Allez-y, Denis.
Non, mais c'est sûr qu'après, il y a un prix quand même qui ressort un peu plus élevé que l'on a dit.
Mais ça, on est d'accord,
parce que je pense que si jamais.
Ça, on est d'accord, Denis, mais les autres, on leur donne quoi à manger?
Si on fait le désherbage des betteraves à la main en France pour maintenir la filière.
Le sucre, il s'en mangera moins et il coûtera pas le même prix.
Ouais, mais c'est ça le problème, Denis. Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, bien entendu.
Les systèmes coexistent.
On a envie de moins polluer les sols, de moins polluer les aliments. Le problème, c'est qu'on prend des décisions d'interdiction avant même de réfléchir aux conséquences et de proposer aux agriculteurs une alternative. Parce que si l'alternative pour les agriculteurs, c'est d'être moins nombreux à travailler, parce qu'ils ont, ils ont plus assez de production, d'être obligés de travailler plus, comme des chiens parce que il faut désherber à la main. Sincèrement, je vois pas le progrès humain.
Non, mais
je vois pas
alors,
le progrès.
Tiens, j'ai un petit message. J'ai un petit message à dire aujourd'hui.
Je remercie Denis.
Celui qui fabrique du ketchup avec 22 morceaux de sucre dans son tube là, il va pas changer sa composition chimique parce qu'il y a plus de betterave en France.
Il
va
chercher ailleurs.
Il va continuer à mettre autant de sucre. Alors si on impose à ce mec là de mettre moins de sucre dans son ketchup, ok, mais c'est pas le cas aujourd'hui.
Je remercie Denis d'avoir été avec Thomas Porcher.
Mais il y a aussi moins d'agriculteurs parce que la FNSEA elle défend également un modèle. Je suis pas sûr qu'il convienne aux agriculteurs. C'est-à-dire le fait que les agriculteurs sont dans cette situation, qu'ils ont augmenté leur productivité, qu'ils ont fait des investissements, mais qu'ils ne gagnent pas plus.
Non, mais on est d'accord.
C'est un vrai problème, ça. Un vrai problème. Et il faudrait peut-être commencer par là. C'est-à-dire que si on veut des filières équitables, etc., qui auront des coûts beaucoup plus élevés. On ne peut pas exposer les agriculteurs à la concurrence internationale.
Ils sont morts. Ouais, mais tu m'as pas dit qu'est-ce qu'on donne à manger aux autres.
Non, bien sûr. Je suis entièrement d'accord avec toi.
Parce que du poulet de 35 jours pour mettre dans la cantoche du coin, il en faudra
mais
encore.
Bien que la finalité de donner un poulet à 1,50€ qui n'a pas vu le jour, qui s'est chié dessus, et qu'on le donne ça aux pauvres en leur disant c'est génial, mangez ça tous les jours, je suis pas sûr que ce soit la solution aussi. Mais je suis d'accord avec toi.
Pareil, il n'y a toujours pas d'alternative, quoi.
J'ai un petit SMS qui vient d'arriver, là. Bonjour les grandes gueules. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la plupart des pays européens autorisent encore l'épandage des néonicotinoïdes. Oui. Nous, c'est une loi de 2015 qui l'interdit. Donc, la France est bel et bien le seul pays européen qui interdit la totalité des néonicotinoïdes. Ouais. Et c'est signé, vous vous souvenez, Jean-Baptiste Moreau.
Ah, ben oui.
L'ancien député de la Creuse, l'agriculteur, qui était à l'origine de la dérogation qu'avait eue la France en 2019.
Et du coup, raison, Jean-Baptiste, c'est que une fois de plus, au sein même de l'Europe, on est condamné par l'Europe pour un produit qui est autorisé à l'extérieur de notre pays.
Alors, je voudrais qu'on aille voir un betteravier, justement.
Parce que c'est la dérogation qui est légale.
Oui. On a un betteravier qui est avec nous, qui nous appelle de l'Aisne. C'est Mathieu. Bonjour, Mathieu.
Bonjour, les grandes gueules.
Alors, est-ce que vous n'êtes pas avec vos collègues en tracteur, là?
Non, j'y étais déjà vendredi. On a fait une action aussi autour de l'éthanol, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les écolos de salon, comme Madame Leleu qui nous donne des conseils, on voit qu'ils sont très loin de nos bases. Ils n'imaginent pas la démarche qu'on a déjà en termes de circuit court chez nous. Pour faire simple, on produit des betteraves aujourd'hui, et dans la betterave, c'est comme dans le cochon, rien ne se perd. C'est-à-dire qu'on produit du sucre, mais on a aussi des sous-produits, ce qu'on appelle les pulpes de betterave. Ces pulpes de betterave, elles permettent de nourrir des animaux. Donc chez nous, en circuit local, au lieu d'importer de l'alimentation qui va venir du Brésil ou je ne sais trop où. Donc si vous voulez, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que tout se tient. Et les pulpes, elles sont déshydratées dans des usines qui tombent de la moitié de l'année. Donc l'autre moitié de l'année, on travaille avec de la luzerne. Donc demain, au-delà de la culture de la betterave, si la betterave tombe, c'est aussi la filière des pubs qui tombe. Donc c'est l'alimentation des bovins animal. Qui va prendre un gros coup. C'est la luzerne qui va peut-être tomber aussi. Donc ça sera... Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois... Le mieux est l'ennemi du bien, quoi. C'est qu'on veut toujours faire plus, mais on ne voit pas les conséquences qu'il peut y avoir.
Et est-ce que vous pouvez nous rappeler, Mathieu, c'est quoi la législation sur les néonicotinoïdes dans les pays d'Europe?
Mais moi, c'est très simple. Les néonicotinoïdes appliqués en aérien, je suis contre, effectivement, c'est bien néfaste contre les abeilles et contre les pollinisateurs. Il n'y a pas de débat là-dessus. Par contre, appliqués dans un enrobage de semences avec des quantités qui sont bien moins importantes, parce qu'aujourd'hui, des néonicotinoïdes, on en a dans les petits bracelets qu'on met autour des coups des animaux, des chiens, des chats contre les puces, hein, faut se le dire. Donc aujourd'hui, tous les gens qui mettent des bracelets anti-puces chez eux, ils ont des néonicotinoïdes. Nous, on l'utilise à des doses qui sont beaucoup plus faibles. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est vraiment cet enrobage de semences et on est certain qu'il n'y a pas d'abeilles qui vont aller dessus. Alors, je veux dire, on a une conscience en tant que producteur. Moi, je suis... j'ai des enfants...
Et pourquoi la France, finalement, cède?
Est la seule condamnée.
Mais qu'est-ce que vous voulez quand vous dites insecticide tueur d'abeilles? Vous avez tué le débat, c'est tout.
Eh oui, bien sûr.
Mais pourquoi on est condamné?
Mathieu,
oui. Pourquoi on est condamné alors par l'Union européenne?
C'est la dérogation, je pense.
Qu'est-ce qui fait que les autres ne sont pas condamnés et que nous sommes condamnés? Ça, c'est une question vraiment.
C'est pas nous qui sommes condamnés, c'est qu'il y a une décision européenne. Oui. Il y avait un litige entre la Belgique et l'Europe, en fait. Et en fait, donc, du coup, pour mettre fin à toute discussion, l'Europe, en fait, a rendu un accord contre ce qui se passait en Belgique et finalement, ça s'impose à nous tous. Donc voilà, mais il n'y a pas... Et pour revenir sur ce que je disais, vous en parlez aujourd'hui, il y a très peu d'apiculteurs professionnels. Moi, j'en parlais qu'un apiculteur professionnel, vraiment, quelqu'un qui est en Ile-de-France, qui travaille énormément, qui nous dit, mais ils se rendent pas compte qu'en vous interdisant, on a aujourd'hui, on met des doses très faibles de produits phytosanitaires. On a, encore une fois, une conscience professionnelle. Et il le disait, si demain, il y a des filières comme le colza, on avait des risques sur le colza. Il me le disait, si demain, il n'y a plus de colza une partie de l'année, je vais manquer de fleurs pour mes abeilles. Il faut faire attention parfois à certains apiculteurs qui sont pas professionnels, qui sont amateurs et qui mettent ça sur le dos des pesticides, alors qu'en réalité, la perte des abeilles, en premier lieu, c'est la destruction d'habitat, le varroa, il y a tout multifactoriel en fait. Et le problème, c'est que voilà, on dit insecticide,
c'est le chiffon
aussi utilisé et on tue le débat.
Mais j'aimerais bien savoir ce que notre ministre de l'agriculture.
Il est nul.
Et moi, très bien, moi.
Il est nul. Il va pas rester très longtemps. Il est nul. Je vous le dis. Autant avant, on avait quelqu'un, Julien de Normandie, qui avait vraiment.
Monsieur Fesneau, Marc Fesneau,
le modem. C'est lui, il est nul, Marc Fesneau?
Mais il tient pas la route. Il est déjà en train de chercher un poste pour se planquer aux prochaines élections européennes.
Julien de Normandie était mieux?
Mais Julien de Normandie, il a fait Grignon, il a fait une école d'agronomie. Oui. C'est lui qui a expliqué aujourd'hui. Vous voyez, pareil, on caricature le glyphosate. Le glyphosate, aujourd'hui, moi, il me sert. J'en utilisais pas avant. J'en utilise depuis que je suis en transition vers l'agriculture de conservation des sols. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vocation à moins travailler mes sols pour justement libérer moins de carbone et préserver le potentiel agronomique de nos sols. Parce qu'on veut trop nous faire croire que le conventionnel, c'est pas bien, le bio, c'est bien. Mais il y a aussi des voies médianes. Mais le problème, c'est qu'on vulgarise pas assez.
Et qu'on a en face de nous, Mathieu, quand même, très régulièrement, des gens comme Madame Rémy Leleu, qui sont sur les éléments de langage et sur la doctrine.
Et qui est d'ailleurs incapable, quand tu lui as posé la question, est-ce qu'il y a d'autres, est-ce qu'il y a des alternatives?
Sur les betteraves, il n'y a pas.
Il n'est pas capable de nous répondre.
Mathieu, merci d'avoir été avec nous, Mathieu. Merci de vos explications claires et nettes. Qu'est-ce qu'on veut garder comme agriculture en France? C'est le vrai débat quand on voit en plus que la filière viande, elle est en train de mourir, à petit feu, on aura bientôt plus d'exploitation.
Ça, c'était le revenu.
La filière betterave qui va claquer
et
aussi.
La pyramide des âges.
Et après, on fera des débats en disant.
Où est passée notre agriculture?
Où sont passés les agriculteurs? Parce que le nombre d'agriculteurs baisse.
Et puis, le débat d'après, c'est qu'est-ce qu'on mange? Exactement. Et comment c'est produit?
Et bon, ça vient d'où? Des insectes.
Alors, les tracteurs dans Paris, est-ce que vous soutenez les agriculteurs, là, dans leur combat? C'est un oui, quand même, un oui à plus de 77%. Vous avez le soutien de l'opinion.
Il y a un fort lobby, quand même, grâce au GIGI. En Europe, écolo contre tout ça. Ouais, mais...